Bonjour tout le monde. Ben, j'aurais espéré vous parler d'autre chose aujourd'hui encore que de l'organisation de notre temps des fêtes parce que, sincèrement, il me semble que ça devrait être beaucoup plus simple que ça l'est à régler. Là, il y a une semaine, jour pour jour, le gouvernement Legault nous disait « voici le cadeau qu'on vous concède », une sorte de contrat moral que vous devez toutefois signer, tout le monde au Québec, citoyens québécois. Vous vous engagez donc à, pour recevoir ce cadeau de 4 jours, vous vous engagez à limiter vos contacts et à, pendant ces 4 jours, n'inviter que un certain nombre de personnes pour que vous soyez un maximum de 10. Et donc, on nous disait du 24 au 27, vous serez capable de voir vos proches et vos familles. On était contents, puis on nous a présenté ça comme un cadeau. Quelques jours plus tard, en début de semaine, là, on nous a dit ben, finalement pas 4-2, pas 4 rassemblements, parce qu'on considérait qu'on en aurait fait un par jour. Or, devant l'engouement des Québécois à s'inviter mutuellement, là, le Dr Arruda et Jean-François Legault se sont dit ouais, visiblement, il va falloir un peu limiter nos ardeurs de party. On va dire à nos citoyens de réduire les contacts et idéalement même, Dr Arruda le disait, de n'avoir qu'un seul rassemblement privé dans le temps des fêtes avec une 47 jours avant, une 47 jours après. Je vous remets en contexte parce que je trouve que c'est important, vous allez voir la chronologie. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, manquez pas notre conférence de presse de 3 heures, on va dire des choses importantes de 13 heures et quoi, entre autres, qu'on va probablement nous annoncer, c'est que peut-être que Noël va falloir mettre une croix dessus. C'est pas sûr, en tout cas, qu'on pourra se rassembler à Noël. Et puis, regardez ce qui se fait en Ontario. En Ontario, le premier ministre Doug Ford l'a annoncé hier, il y aura pas de rassemblement parce que il y a un trop grand risque de contamination. Moi, ce matin, je vous avoue, je comprends pas pourquoi on nous a pas dit ça, nous, il y a une semaine. On dirait qu'on est toujours comme à 24 heures de prendre une décision qu'on va finir par annuler dans un autre 24 heures. Il y a un danger, on s'en est déjà parlé, vous et moi, je pense qu'il y a un vrai danger à jouer au yo-yo comme ça, avec, un, le moral des gens, puis deux, avec... avec la société d'un point de vue plus global. Là, on nous dit, écoutez, il faut absolument, avant quoi que ce soit, avant de penser à Noël, il faut absolument aller en bas là, du 1000 cas. Il faut baisser ça. Là. Il faut que ça soit moins que 1000 cas par jour de nouvelles contaminations. Je vais vous faire écouter une entrevue qu'on a faite hier avec le docteur Nguyen du CHUM qui nous disait clairement que le 1000 cas, là, c'était bien aléatoire comme chiffre, finalement.
Le 1000 cas reste un chiffre très arbitraire. Hein. On aime les chiffres ronds qui finissent avec des zéros, avec une base de 10, mais en réalité, le 1000 cas dans des populations asiatiques, si on proportionnalise pour la population, ça ne serait pas acceptable. Là, au Japon, en Corée, ils ne toléreraient pas ce 1000-là du tout. Mais là, on se tourne vers nos voisins du Sud, puis le 1000, on trouve ça avantageux, puis on est rassuré. Donc, je veux quand même dire que ça reste quand même un chiffre arbitraire. Et c'est sûr que je vous dis tout ça, puis on pense à Noël qui s'en vient. Et là, on le sait que nos contacts vont augmenter. Et ils vont augmenter à l'intérieur de façon significative. Et donc, c'est virtuellement impossible qu'on reste à 1000 cas, 1200 cas.
Alors voilà, donc, vous voyez, là, le 1000 cas, c'est arbitraire. Pourquoi 1000? Pourquoi, là, aujourd'hui, il y a comme cette espèce de... entre guillemets, c'est comme une espèce de c'est pas un chantage, j'ai le mot chantage qui me vient, j'en cherche un autre. C'est beaucoup ce que vous m'écrivez, vous semblez le comprendre comme ça, là. Si on baisse pas en bas de 1000, ben on n'aura pas de party de Noël. Il y a des gens qui me disent, bon là, je suis un peu tannée de me faire infantiliser. Vous allez me dire comment vous voyez ça, 514-790-9850 pour nous joindre dans la grande région de Montréal et de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Je pense qu'il faut retenir aussi, c'est que il y a une véritable pression sur le système de santé là, qui risque d'arriver en janvier. S'il y a trop de parties, il est fort possible que ça soit pas mal pire que 1000 ou 1100 cas, comme on a en ce moment. Pour en discuter, il est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Il est professeur en épidémiologie à l'Université Laval. C'est le docteur Gaston Dessert, à qui on aime bien parler. Bonjour, docteur Dessert.
Bonjour, madame.
Le 1000 cas, là. On peut-tu régler ça? Est-ce qu'effectivement, c'est un signe aléatoire, comme nous le disait hier le docteur Nguyen, ou visiblement, pour le docteur Arruda, ça semble être une barre psychologique importante et qu'il faille absolument aller en bas de ça? Comment vous voyez ça, vous, docteur Dessert?
Ben, je pense que, clairement, le chiffre qui est déterminé va toujours être arbitraire. Arbitraire voulant pas dire que c'est n'importe quoi, mais c'est sûr que pourquoi on dit 1000 et on dit pas 900, on dit pas 700, on dit pas 1100, ça, c'est parce qu'à un moment donné, il faut mettre un chiffre, puis effectivement, les chiffres qui finissent par des zéros sont souvent plus symboliques que d'autres. Mais ceci étant dit, je pense que d'avoir mis un chiffre pour dire, bon, il faut qu'on se situe en bas de ça pour qu'on soit, je dirais, rassuré sur ce qui risque de se produire autour de Noël. Je pense que peut-être pour tempérer un peu l'enthousiasme qui a été généré initialement, là, parce que c'est clair que quand on regarde la situation du Québec, c'est une situation qui est, j'allais dire, là, elle est pas rose. La grande différence, c'est que dans les autres provinces du Canada, c'est en augmentation, alors qu'au Québec, c'est stable. Mm-hmm. C'est stable, mais c'est élevé. Et donc, évidemment, le potentiel de croissance, quand tu es déjà avec beaucoup de virus qui circulent dans la population, il est quand même important.
Ben oui, on a le tiers des cas au Canada, puis on peut dire qu'on est tout juste un peu plus que le cinquième de la population en termes de démographie. Donc, on a clairement ici eu plus de cas à ce jour que dans le reste du Canada. C'est bon de le rappeler. Est-ce que vous parlez d'un enthousiasme généré auprès de la population, c'est sûr, puis dans son désir de nous faire plaisir, puis de nous consentir Noël, puis d'être le bon père de famille, est-ce que François Legault s'est pas un petit peu avancé avec ces quatre jours qu'on l'a réduit à deux rassemblements, puis peut-être même idéalement à un, puis peut-être après cet après-midi, zéro finalement? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, docteur Dessert, qu'on ne savait pas il y a une semaine quand on nous a annoncé ce contrat moral?
Ben, écoutez, là, je peux pas vous dire qu'est-ce que le gouvernement sait qu'on savait pas la semaine dernière. Je suis pas dans le secret des dieux, là. Je pense qu'encore une fois, probablement que les paramètres importants qui ont mené le gouvernement à faire cette annonce-là la semaine dernière, c'est effectivement que la situation au Québec était plutôt stable, il y avait une demande très importante au niveau de la population pour que les gens puissent se voir durant le temps des fêtes. Et donc, je pense que c'était ça qui était les principaux éléments là que essayait de d'équilibrer ou d'optimiser le gouvernement.
Mais
ceci étant dit, je pense que il y a beaucoup de. Enfin, je pense que c'est je sais pas si on peut dire c'est une décision pour laquelle, clairement, si on augmente les contacts,
ouais,
ben on va augmenter de la transmission. Et je pense que ce qui est peut-être à l'origine là des changements de cap, là, je sais pas si on peut appeler ça des changements de cap ou en tout cas des ajustements, là, c'est de dire bon là on partait pas en part pour vous organiser 10 rencontres pendant les 4 jours. Si vous faites ça, là, évidemment, ça va pas bien aller. Et je pense que donc l'idée de dire il faudrait pas envisager d'avoir de nombreuses rencontres à 10 personnes, mais au contraire de limiter ça à. Puis encore une fois, là, moi, je connais pas ce que le gouvernement va annoncer cet après-midi, mais l'idée est évidemment de faire qu'on se ramasse pas après Noël dans une situation, je dirais, très, très difficile à gérer. Aux États-Unis, actuellement, là, aujourd'hui, c'est le Thanksgiving. Je pense qu'on va voir l'impact du Thanksgiving là probablement dans 2 ou 3 semaines d'ici. Mais évidemment, aux États-Unis, dans une situation où les choses se détériorent là très rapidement, il y en a énormément de monde qui sont, je dirais, très inquiets là de ce qui va se produire à cause de ces rencontres-là. Alors, je pense que c'est tous ces éléments-là qui peut-être amènent le gouvernement à préciser là, oui, vous allez pouvoir faire des choses, mais pas dans n'importe quelle situation. Puis, même déjà la semaine dernière, il disait, dans la mesure où la situation actuelle reste celle qu'on a là, et que ça se détériore pas d'ici à Noël.
Ouais. La question que je vais poser aux auditeurs aussi, c'est Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire de plus pour réduire le nombre de cas sous la barre des 1000, si on accepte ce chiffre aléatoire? Acceptons-le. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, docteur Serre? Parce qu'on a, moi j'ai l'impression, puis j'en parle tous les jours, on est tous les jours dedans, là, dans le dossier COVID, puis sincèrement, je vous demandais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas jeudi dernier, sans être dans le secret des dieux. Je pense qu'au niveau là, de ce qu'on en sait, puis je veux dire, il y a des conférences de presse tous les jours pour normalement nous tenir au courant, donc il ne devrait pas y avoir de grands secrets de Dieu. On devrait être quand même assez près de la vérité. Là. Mais il n'y a pas grand-chose qui a empiré, à part le fait de voir du monde qui sont allés danser dans un centre d'achat à Rosemère qui peut tous nous inquiéter parce qu'on assiste à un certain relâchement, effectivement. Mais sinon, qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, on dise complètement le contraire d'il y a une semaine? Ça, j'ai de la misère à le croire. J'aimerais ça avoir un début de réponse de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est vous, mais vous n'avez pas ce même genre de questionnement, docteur Dessert? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit aux gens, faut vraiment en faire plus? On pensait-tu que ça allait baisser au cours des jours qui ont suivi, le jeudi dernier?
Encore une fois, là, je pense pas qu'il y a eu tant de choses qui aient changé de la semaine dernière à maintenant. Mm-hmm. Il y a certainement plusieurs personnes qui ont, émis des craintes que, ces rencontres-là. Puis encore une fois, souvent durant les rencontres de Noël, un groupe qui est convié à ces rencontres-là, c'est les grands-parents qui font partie d'un groupe pour lequel on veut pas qu'il y ait de transmission. Et donc, le docteur Nguyen qui travaille en gériatrie, d'autres personnes qui travaillent dans différents milieux de soins, on dit, écoutez, nous autres, là, ça nous inquiète. Oui. Et donc, est-ce que ces informations-là, ou en fait ces inquiétudes-là, qui ont été, mises dans la balance là, pour faire un peu, diminuer ce que les gens pensaient qu'il allait être permis durant le temps des fêtes. C'est probable. Maintenant, encore une fois, là je spécule et j'ai pas vraiment plus d'informations que ça. Là. Mais clairement, je pense que l'idée que je comprends, c'est que depuis le début, ce que les gens voulaient, c'est qu'il y ait une priorisation, qu'on voit moins de monde au temps des fêtes, mais qu'on priorise les gens qu'on aime beaucoup, puis c'est pas que les autres, on les aime pas, mais qu'on dise, écoutez, on va garder ça au minimum. Puis évidemment, ce qui est peut-être le trou dans ce qui était annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire on permet des rassemblements de 10 personnes, mais sans mentionner combien de ces rassemblements-là pourraient avoir lieu. Et là, je pense qu'il y a plein de monde qui pouvait garder l'optique d'avoir peut-être une ou deux rencontres comme ça, mais il y en a peut-être une proportion qui, eux autres, se disaient « OK, on va le faire à 10, mais on va en faire plusieurs. » Et ça, je pense que c'est peut-être ces personnes-là qui sont visées là, par les précisions amenées par le gouvernement.
Et pour baisser en bonne mille, on fait quoi de plus?
Ben, écoutez, je pense que ce qui est compliqué actuellement, c'est que quand on regarde où se produisent la transmission, on a comme 4 milieux principaux où on voit de la transmission. Il y a les milieux de travail, il y a les milieux scolaires, il y a les milieux de soins et évidemment, s'il y a quelqu'un qui est malade dans votre famille, les familles. Hein? Donc, un cas qui arrive dans une famille, les autres membres de la famille sont très à risque. Il y a des solutions qui peuvent être plus faciles à appliquer pour peut-être les milieux de travail. Donc, de regarder encore une fois là, comment dans notre milieu de travail, on pourrait minimiser les contacts. Hein? Il y a eu un encouragement très fort de faire que les gens travaillent en télétravail quand c'est possible. Est-ce qu'il y a de l'amélioration qui puisse être faite à cet endroit-là? C'est possible. Est-ce que ceux qui doivent aller sur place, il y a moyen d'organiser l'installation physique pour que les gens restent, bien séparés les uns des autres, bien protégés lorsqu'ils se rencontrent? Une des choses qu'on voit, c'est que souvent, avec les autres travailleurs, avec nos collègues, ouf, on n'a pas trop d'inquiétude. Est-ce que durant les pauses, durant les repas, les gens, malgré tout, se regroupent, mangent ensemble? Toutes ces choses-là, évidemment, il faut voir dans chacun des milieux comment ça peut être amélioré, mais c'est sûr que je dirais de voir que ça bouge pas là depuis le début octobre, qu'on reste toujours autour de 1000, 1100, 1200 cas par jour, ça veut dire que il va falloir faire quelque chose de plus si on veut que ça se mette à baisser.
Oui, mais c'est ça, c'était le quoi, là.
Non, mais je suis d'accord. Mais quand je dis qu'il faut faire quelque chose de plus, c'est que là, si, bon, il y a des gens là, pour lesquels ils peuvent, ça peut pas baisser, ils voient pas personne. Et, bon, moi, je travaille à la maison là, du matin au soir, je sors pour l'épicerie, puis je reviens ici, j'ai une vie quasiment monastique.
Mais justement, moi, je fais ça également, beaucoup de gens font ça. Donc, qui est responsable du fait qu'on n'est pas capable de baisser en bas de 1000?
Ben, c'est parce que c'est ceux qui sont dans les autres types de milieux. Et là, donc, quand on parle des milieux de travail, bon, ben, moi, je peux dire que mon milieu de travail, c'est ma maison. Je peux pas baisser les contacts. Mais il y a clairement d'autres situations où les gens rencontrent des personnes et se protègent pas durant ces rencontres-là. Évidemment, avec le fait qu'on soit en zone rouge, puis que à peu près partout au Québec, il n'y ait pas de permission pour que les gens reçoivent d'autres personnes dans leur maison, c'est pas nos contacts sociaux à la maison qui sont à l'origine pour la grande majorité des gens, là, que ce soit à l'origine de beaucoup de transmissions. Donc, c'est pas là, là que les changements peuvent se faire. Bon, dans les écoles, il y a eu des choses qui ont été faites. Est-ce qu'on pourrait améliorer encore comment on fonctionne dans les écoles pour réduire encore plus la transmission? Je pense que c'est certainement quelque chose qu'il va falloir regarder. Encore une fois, dans les milieux de soins, il se fait beaucoup de transmissions. Qu'est-ce qui se passe dans les milieux de soins qui fait que les travailleurs sont aussi affectés? Nous, on commence une étude là pour voir là qu'est-ce qui se passe maintenant encore. On en a fait une au printemps dans laquelle on voyait plein de trous là qui faisaient que les travailleurs de la santé finissaient par se faire infecter. Mais pourquoi ça persiste encore maintenant? Je pense que ça, il faut vraiment le comprendre pour réduire le risque des travailleurs de la santé.
Merci beaucoup, Dr. Gaston Deserre, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Nos lignes sont pleines, on vous donne la parole tout de suite après la pause. Alors, ça devient de moins en moins sûr qu'on va pouvoir se rassembler à Noël. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire de plus pour réduire le nombre de cas et passer sous la barre des 1000? Ça semble être le fameux « si » du gouvernement là, qui a surgit il y a quelques jours déjà, là, c'est-à-dire que oui, on pourra faire des parties si on arrive à réduire le nombre d'infections au quotidien. Là, il y a l'Ontario là, qui est dans une mauvaise posture, comme l'Alberta également, là, où on a dû se résoudre à déclencher l'état d'urgence. Et là, en Ontario, on vient d'annoncer 1478 nouveaux cas. Nous, d'ici une demi-heure, on devrait savoir également combien on en a. Ce serait étonnant que ça soit en bas des 1000. On a Madeleine qui est avec nous. Bonjour, Madeleine.
Bonjour, Isabelle. Moi, ce que je pense, c'est que les gens aiment bien chialer, je dirais même qu'ils chialent toujours. On entend bien ce qu'on veut entendre parce que le message du premier ministre était très clair. Il est dit « si », il y a ça, et « si ». Et les gens ont pris pour acquis que là, c'était parti, là. Mmh. Mais justement, pauvre M. Legault, il fait appel au jugement des gens, à leur responsabilité. Mais là, tout ce qu'il dit, là, c'est tout décortiqué pour aller dans tout croche, essayer. Alors moi, je pense que les gens devraient se responsabiliser davantage puis être heureux. Si M. Legault n'avait rien dit, les gens auraient chialé, ils auraient dit « Ah, il nous laisse dans le vent ». Là, il en dit « Ah ben, il nous infantilise ». Alors moi, je pense que M. Legault, là, chapeau, vous faites un très beau travail et les gens, malheureusement, une partie ne se responsabilisent pas et essaient de chialer tout le temps.
Merci Madeleine, merci bien, c'est très clair. Yves, bonjour.
Ben moi, j'ai une autre façon de voir ça. Concernant le dilemme des vacances de Noël, là,
oui.
Moi, je comprends pas comment est-ce que le monde peut pas faire, comment est-ce que ça se fait que le monde peut pas utiliser simplement le bon sens et arrêter d'agir comme des petits enfants. Si on parlait, par exemple, de maladies transmises sexuellement, puis qu'on était actif sexuellement, est-ce que les chiffres que le gouvernement donne en ce moment auraient un rapport avec le risque de contracter une maladie? je comprends pas le monde qu'on a besoin de leur dire 4, 6, 8 ou 2 visites pour comprendre que c'est un virus, qu'il faut faire attention, puis que c'est simplement ça. On ne devrait pas avoir à attendre après le gouvernement pour faire attention ou se faire dire qu'on peut avoir...
Je veux dire, à partir du moment où on dit que c'est contagieux, ben il faut considérer qu'on peut...
Ouais. C'est une maladie transmise sexuellement. Combien de partenaires différents l'ont protégé, vous, l'ont protégé?
Oui, ben là-dessus, on pourra en débattre longtemps, mais vous savez qu'il y a toujours un grand problème d'ITSS au Québec, alors c'est pas sûr que les gens... Même quand on est au courant de quelque chose, ça veut pas dire qu'on prend les mesures pour éviter de se retrouver en mauvaise posture. On a Bernard qui est avec nous. Bonjour, Bernard.
Bonjour, bon matin.
On vous écoute.
Écoutez, depuis le début, on était très responsables. On a toujours tout suivi à la lettre. Je vis comme un moine.
Oui.
Je vais à l'épicerie, à la pharmacie, je rentre à la maison. Et là, on a cancellé le jour de l'an, on a cancellé le Père Noël. On n'a pas vu nos petits-enfants depuis septembre. Et là, c'est pas vrai qu'ils vont recevoir le cadeau par Zoom. C'est pas vrai. Fait que nous autres, là, on va être 8 sur 9 qui va être capable de suivre la cure de 7 jours avant et 7 jours après. Il y en a un qui est au commerce de détail, il ne peut pas. Fait que c'est sûr qu'il ne prendra pas une semaine de vacances là. Fait que je peux vous avouer là, que M. Legault a annoncé qu'il voudra. Là. Je vais voir mes petits-enfants.
Et la personne là, qui ne peut pas suivre de quarantaine 7 jours avant votre fête familiale, vous allez la mettre où? Dans une autre pièce ou il va devoir porter son masque toute la soirée? Comment vous voyez ça?
On va se distancer. J'ai pas de problème. J'ai une grande maison pour prendre le 2 mètres. Mais c'est pas vrai que mes petits-enfants, je les verrai pas à Noël. Écoutez, on a même cancellé le Père Noël, on a cancellé notre jour de l'an, et on va être 8 sur 9 là, qui est capable de suivre la cure avant et après. Fait que là, on va même pas à 10 ou à 11, puis dans les 8, ben il y a quand même 3 petits-enfants.
Ouais. Merci beaucoup, Bernard. Monique?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, je suis pas d'accord avec celui qui vient de parler à propos des petits-enfants, mais les adultes, je pense qu'on peut carrément passer par-dessus Noël. Là. C'est quand même une fête de petits-enfants. Une chose que un point que je voulais apporter, c'est que on parle du Thanksgiving américain, qui va y avoir des millions de personnes qui voyagent en avion.
Oui, c'est aujourd'hui.
Mais nous aussi, hein, la période de Noël, là, entre provinces, ça voyage énormément.
Oui.
Puis je peux vous le dire, parce que moi, j'ai un garçon en Colombie-Britannique, pour avoir un billet d'avion pour venir ici pour le temps des fêtes, là, c'est impossible. C'est plein. Alors, qu'est-ce qui arrive là, entre les interprovinces?
Mais il n'y a pas de quarantaine. Il n'y a pas de quarantaine.
Non, il n'y a pas de quarantaine, mais il reste que c'est des gens qui vont être dans les aéroports.
Ben oui, complètement, c'est sûr.
Puis là, quand ils repartent d'ici, ils partent d'une zone rouge, ils retournent dans leur province. Il y a énormément de contacts. Là.
Il y a des gens qui m'écrivent qu'il y a beaucoup de ratoureux parmi les Québécois. Puis la semaine dernière, on en parlait, puisque vous faites allusion au voyage, Monique, puis vous avez raison. On parlait de Québécois. Moi, j'ai eu vent de gens qui partent d'ici. Ils passent par l'aéroport de Calgary, où je vous expliquais la semaine dernière là, qu'il y avait un projet pilote, où finalement, ils te font un test sur place. Puis, et là, ils vont aux États-Unis, dans le sud, dans les Caraïbes. Ils reviennent par là, par Calgary. Puis après ça, ben ils sont interprovinciales. Et ils reviennent à Montréal comme ça. Fait comme ça, ben t'as pas besoin de faire ta quatorzaine. Alors, vous allez dire, ben au moins, ils passent un examen, ils passent un test en arrivant. Ce qui est pas mauvais, mais est-ce que tout le monde passe le test?
J'en connais une qui l'a fait, là, qui est à Vancouver, Los Angeles.
Puis elle n'a pas eu de test.
Aller et retour.
Ouais, exact.
Alors, je voulais juste apporter le point province. Là, on parle de, on peut pas se voir papa maman là, mais là, il risque que ça se promène à travers le pays quand même. Là.
Merci. Merci beaucoup, Monique. Mais je pense que c'est vrai, il y a des gens là, qui m'écrivent ça. Mon Dieu, il y a bien des Québécois qui essayent de détourner les règles en se disant « Hey, tant que je me fais pas pogner par la police, j'ai pas de problème. » C'est pas ça le concept. Là. Le concept, c'est de respecter la règle. C'est pas si tu te fais prendre ou pas. C'est faut la respecter. On s'arrête ici. On va parler d'ailleurs au docteur François Marquis parce que l'idée derrière le 1000, le fameux 1000, ce qu'on nous dit, c'est que on craint en janvier une recrudescence des cas dans les hôpitaux. Le docteur Marquis, vous le savez, est chef de soins des services de soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Il va pouvoir nous dire, lui, comment il entrevoit la suite des choses et pourquoi, effectivement, peut-être c'est une bonne idée de ne pas avoir de contact du tout pendant le temps des fêtes. À tout de suite. Coronavirus,
coronavirus. Coronavirus. Coronavirus.
Le docteur François Marquis est chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, docteur Marquis.
Bonjour.
Ça fait un petit moment qu'on s'est parlé. Je voulais vous poser la question parce que vous êtes les deux mains dedans, vous, tous les jours. Puis je voulais qu'on discute aussi de ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Parce que là, la grande question, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'on savait pas jeudi dernier quand on a annoncé une espèce de trêve aux Québécois sur laquelle on semble revenir chaque jour un peu plus? Là, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir avoir des rencontres familiales à Noël, ne serait-ce qu'une rencontre. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire de plus pour réduire le nombre de cas sous les 1000? C'est un peu la question que je pose à mes auditeurs aujourd'hui. On en revient à ça, finalement. Qu'est-ce qu'on ne fait pas assez? Parce que visiblement, le chiffre des 1000, même tout aléatoire qu'il est, il est quand même là. C'est vrai qu'on a toujours autour de 1100 à 1200 cas par jour. Qu'est-ce qu'on ne fait pas de correct, docteur Marquis? Il y a toujours bien quelque chose qu'on ne fait pas.
Bien, en fait, c'est ce qu'on fait pas correct, c'est pas une chose en particulier. C'est on est rendu au moment où c'est tout se joue dans les petits détails. Mm-hmm. C'est rendu le moment où il faut gratter un peu les fonds de tiroir et que chaque petite chose à gauche et à droite, tous nos petits relâchements qui sont difficiles à pointer du doigt, c'est eux autres qui nous font mal là. Et c'est entre autres là probablement l'isolation volontaire, là, le fait de séquestrer soi-même. Les gens prennent peut-être un peu moins à cœur les symptômes parce qu'ils sont écœurés de se faire tester. C'est aussi dans les milieux de travail. Moi, j'en ai vu, j'ai eu des témoignages, là, j'en reviens souvent, mais cette sacrée machine à eau ou machine à café,
ouais,
où pendant un instant, on croise quelqu'un sans masque parce qu'on est juste à côté de notre bureau, où on est 5 dans un bureau, mais c'est correct qu'ils nous ont installé des plexiglas. Non, c'est pas assez. C'est ce genre de petites choses-là, présentement, qui nous fait mal.
Ouais. Et il y a Sophie qui me dit exactement ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire qu'elle travaille présentement dans un bureau. Elle dit la distanciation n'est pas encouragée par l'employeur, ni le télétravail. Le bureau est rempli d'employés à pleine capacité, malgré nos demandes à l'employeur pour effectuer du télétravail avant les fêtes, pour respecter la demande du gouvernement là pour cette quarantaine de 7 jours. L'employeur refuse. On va devoir rester au bureau jusqu'au 23 décembre. Elle dit qu'elle a peur de contaminer ses proches. Donc,
ce que je trouve, bon, là, il y a peut-être qu'il faudrait que l'employeur parle avec la santé publique ou la santé publique parle avec l'employeur, là, mais pratico-pratique, si c'est le cas, parce que ça va être le cas pour des gens dans le système de santé, là, hein, on peut pas faire du télétravail, nous autres, ça veut dire que si tu travailles jusqu'au 23 décembre, tu ne peux pas aller dans ta famille faire un de tes deux rassemblements pour l'instant de 10 personnes. Non. Ça ne s'applique pas, tu as été disqualifié et c'est totalement injuste, mais le virus est injuste. C'est ça, une pandémie, ça va pas à la justesse, ça va pas à la gentillesse des gens, à l'effort des gens. C'est bête et méchant, c'est un peu comme la guerre, là, et ça va pas à l'effort ni au mérite. Tous les gens qui vont travailler, qui ne seront pas en mesure, pour une raison ou une autre, que ce soit l'employeur ou la nature du travail, de faire cette auto-quarantaine-là d'avant,
ouais,
ne peuvent pas participer. C'est comme ça.
Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas jeudi dernier? Je posais la question tout à l'heure au docteur Dessert là, de l'INSPQ, puis il me disait, ben, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en même temps, il n'y a pas tant, finalement, de nouvelles données. À part le fait qu'effectivement, la situation dans les hôpitaux, entre autres à Montréal, est de plus en plus préoccupante, là, semble-t-il. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, docteur Marquis, là, qui êtes au quotidien?
Et il faut faire attention. Tu sais, quand on est le nez dans tranché, on voit pas nécessairement la perspective. Et d'une part, il y a des chiffres que la santé publique a sur un peu les relations entre les régions et telles régions. Je parlais avec des gens de la Mauricie ce matin qui ont où leurs hôpitaux sont quand même très, très, très sollicités, encore plus en termes de ratio qu'à Montréal. Là, eux autres, c'est que la santé publique, là, ils doivent voir ça dynamiquement. Puis là, ils voient des capacités qui montent, qui descendent. C'est ça qui leur fait peur. Faut pas oublier une chose. Nos voisins, si on regarde avant la première vague, là, c'était pas mal le Québec, puis les autres, ils nous regardaient de loin en se disant « bof, c'est le Québec ». Mais là, c'est tout le Canada qui est pratiquement plus malade encore qu'au Québec. C'est que si ça a une chance de déborder, c'est eux autres qui vont venir nous contaminer. Là, c'est ça la réalité dans du temps des fêtes. C'est qu'on vit dans un monde dynamique. Et tu sais, il faut comprendre, il y a les livraisons de marchandises, il y a tout le transport, toutes ces choses-là, c'est des vulnérabilités pour nous autres. C'est qu'il y a tous ces chiffres-là que moi, dans la tranchée, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, puis ce que je vois, c'est... Moi, j'ai eu un méchant pincement au cœur quand la première chose que j'ai entendue, quand notre premier ministre a proposé son contrat social et moral,
ouais.
C'est les gens qui ont juste dit « OK, en 4 jours, je peux faire 25 rassemblements ». Et le fait d'avoir vu massivement les gens s'accrocher sur la possibilité de faire un maximum de rencontres dans un minimum de temps, moi, m'a démontré une chose, c'est que les gens n'avaient pas compris, un, c'est quoi le concept du contrat, et deux, la fragilité. Les gens vont faire des excès pendant le temps des fêtes, ça m'inquiète énormément. On va dire que c'est peut-être un peu dans la nature humaine, là, mais le fait est que le retour en janvier risque d'être brutal, pour tout le monde, puis pas juste parce qu'on va avoir fêté un peu trop fort. Ce qu'on ne devrait pas avoir fait au jour de l'an, by the way.
Non, exactement. On a Michel qui veut rajouter quelque chose là-dessus. Bonjour, Michel.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute.
Ouais, j'en reviens pas. C'est-à-dire, quand on passe un contrat social, puis qu'il y a juste une partie qui change les clauses, deux, trois fois les clauses dans la même semaine,
ouais.
C'est sûrement pas leur coach qui les ont enseigné à nous faire ça. Si t'es pas pour le faire, de toute façon, là, 1000 cas, là, ils savaient très, très bien il y a une semaine que le 1000 cas, on est stable. S'ils ne veulent pas de 1000 cas qui arrêtent de tester, on n'aura pas.
Mais ça fait 3 semaines qu'on vit ça, là. Donc,
ben oui, c'est ça. Puis là, on est égal. Mais sauf qu'il y a des limites pour lancer des ballons comme ça dans des émissions. Ils vont tester qu'est-ce qu'on pense. Puis il y a toujours une majorité de gens qui.
Ils appellent des chroniqueurs ou des animateurs pour leur passer leur message la veille.
Ben, écoute, c'est bien clair. Puis là, ils voient les gens qui appellent, là, puis il y a toujours 25-30% de la population que même quand le virus sera plus là, ils sortiront plus.
Ouais.
Fait que c'est ça le danger. C'est on va venir comment? À 900, on ne les croit plus. À 900 cas, ça va être peut-être encore dangereux qu'on frappe le 1000 2 jours après. Donc, on n'a plus de confiance.
Oui, effectivement. Ben, merci Michel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui m'écrivent et puis qui essentiellement sont d'accord avec ce que vient de nous dire Michel, docteur Marquis. L'impact, là, on peut croire là, que François Legault, sincèrement, quand il nous parle, je pense qu'il est vraiment préoccupé par la santé et puis le bien-être des Québécois. Peut-être qu'il s'est lancé emporté par ce que le docteur Dessert appelait tout à l'heure un enthousiasme peut-être généré par son désir là, justement de nous faire plaisir, de pas nous dire non, de pas porter l'odieux aussi peut-être d'une décision un peu trop radicale. Je veux dire, un politicien là, il aime pas ça quand on l'aime pas, puis en gros on aime plutôt monsieur Legault. Alors est-ce que c'est ça qui a fait qu'il s'est un petit peu trop laissé emporter par son désir de donner 4 jours de trêve aux Québécois? En même temps, là, aujourd'hui, il va y avoir des pots cassés après ça, parce que là, j'ai l'impression que les Québécois sont un peu fâchés. Il y en a qui comprennent pas, il y en a qui estiment qu'ils font ce qu'il faut, on peut pas leur en demander plus. Il y a toujours un risque à jouer au yo-yo avec le moral du monde aussi, Dr Marquis.
Bien, ça, c'est une réalité, puis c'est une réalité qui est non médicale, mais c'est vrai, dans le sens où changer fréquemment le message crée des zones de confusion. Puis ça, c'est une réalité. Moi, j'avoue que quand je l'ai entendu, la première conférence de presse, j'ai trouvé ça fort généreux.
Ben, jeudi dernier, là, c'était pas il y a longtemps, là, c'était il y a une semaine jour pour jour.
Moi, j'ai trouvé ça fort généreux. Mais tu sais, je me suis dit, ils ont peut-être des chiffres, il y a peut-être des choses qui leur permettent vraiment de faire ça. Je veux dire, on leur donne le bénéfice du doute dans la mesure où c'est eux autres qui ont la vision globale. Bon, à partir de
on
là...
On espère...
C'est ça. À
l'ont-ils
partir de
vraiment,
là, je crois que ce qu'ils n'avaient peut-être pas prévu, c'était ce soudain engouement pour essayer de battre le record du monde du nombre de rencontres en 4 jours. Je crois que ça les a surpris. Puis là, c'est facile en rétrospective de dire on aurait juste dû donner 2 jours, puis au pire relaxer parce que les gens vont toujours nous pardonner de leur donner plus de vacances, vont au moins nous pardonner de leur en enlever.
François, François, là-dessus, là, sur on a été, je comprends là, qu'ils ont pu être surpris de la réaction du monde. Je comprends, puis en même temps, je la comprends pas parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu sois déconnecté de tes citoyens pour pas penser là. Je veux dire, regardez tout le débat. Regardez les débats qu'on a sur l'Halloween, sur des petites niaiseries là, qui ne feraient pas cinq minutes ailleurs. Nous, on en parle pendant des jours. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas pensé dans le meeting avant de nous l'annoncer que peut-être qu'il y en a certains qui ne comprendraient pas juste un party.
Oui. Je peux pas croire ça. Je pense que la santé publique l'avait compris. Maintenant, j'étais pas là dans cette réunion-là, qui a dû être assez musclée. Mais tu sais, il y a une décision qui a été prise. Ils ont décidé d'aller de ce côté-là. Mais la décision microbiologique, si on se penche simplement sur le côté médical, la décision aurait dû être, d'un point de vue juste médical, pas rien pendant le temps des fêtes.
Exact.
Réduire au minimum les contacts, parce que c'est le type de contact du temps des fêtes. C'est comme si ça avait été inventé pour les maladies contagieuses. Pas juste la COVID-19. Là. Je veux dire, à chaque année, l'épidémie de grippe prend une augmentation tout de suite après le temps des fêtes. C'est connu, c'est attendu. Maintenant, c'est certain qu'il y a des considérations autres que le simple bien-être médical qui ont été pris en considération. C'est certain qu'il y a des gens qui ont fait des représentations pour l'impact de l'isolement, la détresse psychologique, le manque de revenus, peu importe, là. Et ces gens, eux autres, ils ont pris un choix en mélangeant tout ça ensemble, en essayant de sauvegarder la chèvre et le chou. Mais là, le problème, c'est qu'on dirait que la chèvre est en train de manger le chou, là.
Exact. Merci beaucoup, docteur Marquis. Merci bien. On s'arrête ici. Bougez pas. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir. On vous donne la parole tout de suite après. Bon, alors, ça semble pas très sûr là, qu'on puisse se rassembler à Noël. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire de plus que ce que vous faites déjà là, pour réduire le nombre de cas, puis essayer d'aller en bas de la barre des 1000? Ça semble être un chiffre là, important pour le gouvernement. Lina, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Maréchal. Écoutez, en ce qui me concerne, mon conjoint et moi, on ne peut même pas prendre 2 jours de congé avant et après, donc c'est zéro pour nous, zéro rencontre. Cependant, on est propriétaire de ressources intermédiaires. Cependant, on a un deal avec le Père Noël qui va passer d'une manière un peu particulière cette année pour nos usagers, mm-hmm. qui, eux, sont confinés depuis quand même le mois de mars. On a un grand gazebo dans la cour. S'il fait beau, on va faire à l'extérieur. Sinon, on va regarder le Père Noël par la véranda. Mm-hmm. On va le saluer. Ça va être magique quand même. On essaye d'être créatif cette année. Mais c'est sûr que les parties pour nous, ce sera pas pour cette année. Ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que je ne comprends pas pourquoi cette période de quasiment confinement de 2 semaines, pourquoi on n'en profite pas pour faire baisser drastiquement les contaminations. Tout le système scolaire est fermé, pas d'étudiants, pas d'école, ni secondaire, ni primaire. Donc, il y a une bonne partie de la population qui, quand même, va être à la maison. Pourquoi on n'en profite pas et on zappe ce party? C'est un party. C'est pas une fête religieuse. Toute l'année, les églises sont fermées. Donc, c'est un party. Mm. On va faire le party fin février, mi-mars. C'est juste un party.
D'accord. Donc, vous dites, on zappe Noël, on passe dessus
regardez,
cette année.
On zappe.
Merci,
Lina. Il y a bien les autres religions qui ont tout zappé.
Oui. Merci beaucoup. Chantal, bonjour.
Bonjour Isabelle.
On vous écoute.
Moi, je suis pas d'accord du tout avec le gouvernement. Je trouve ça tellement incohérent. Là.
Mm-hmm. Vous allez faire quoi, là?
Je respecterai pas les règles. J'ai pas de famille, moi, Isabelle. Je peux pas fêter avec mes enfants. J'ai pas de famille. Je suis toute seule. C'est une période pour moi de voir mes amis. Depuis le mois de mars qu'on est confinés, qu'on fait attention. C'est dans les écoles, les contaminations. Depuis septembre, le taux de contamination est élevé, puis on n'arrive pas à le baisser, c'est à cause des étudiants. Je comprends le gouvernement qui ne veut pas fermer les écoles. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je trouve que là, puis Noël, on ne fêtera pas cette année. On va prendre un bon repos entre amis et on va respecter les règles. On est des adultes.
Merci, Chantal. Merci beaucoup. Bonjour, François.
Ouais, salut. Moi aussi, je suis un peu d'accord avec la fille qui vient de parler. Moi, j'ai séparé ma famille en deux à Noël, puis ça, je me fous bien de ce que le gouvernement va décider. J'invite 3 personnes un soir, 3 personnes l'autre soir. Il y en a 2 là-dedans qui sont à leur retraite puis qui vivent en appartement, qui sont des personnes âgées. J'ai ma soeur, j'ai ma blonde, puis j'ai leurs enfants qui vont venir en 2 soirs. Puis c'est à nous de choisir aussi qui qu'on invite, puis d'avoir un peu la gestion du risque.
Est-ce qu'ils vont se confiner 7 jours avant, pour être le plus sécuritaire possible?
Ben, ma soeur est déjà en télétravail. Moi, non, parce que ben, ça va être 6 jours parce que je finis de travailler le 18. Mais c'est risqué. Le seul risque que moi j'encours, c'est d'aller à l'épicerie. Puis je veux dire, on se lave les mains, on met un masque. Puis à un moment donné, faut pas virer fou.
Okay.
Parce que moi, je les appelle les constipationnistes, là, ceux qui ont trop peur.
Ouais. François, je dois vous laisser ici. Mais en tout cas, merci bien d'avoir pris le temps de nous appeler. On se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.